RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, salut Lyon!
Quelle ambiance!
Content de vous retrouver, content d'être avec vous ici en direct de ce magnifique palais de la Bourse qui date de 1860. Un très beau décor pour la meilleure des émissions de débat, vous le savez. Les Lyonnais qui sont avec nous, bonjour Olivier!
Salut Alain, bonjour Lyon!
En direct jusqu'à midi. Ça fait toujours plaisir de se faire un peu applaudir de temps en temps. On est tellement critiqué, bien sûr. Barbara Lefebvre est des nôtres aujourd'hui.
On t'a entendu penser. Alors, excusez-moi, mais la chaleur lyonnaise, c'est quand même autre chose que la vague chaleur marseillaise la semaine dernière.
Ah, franchement, ça y est. Emmanuel Devilliers est avec nous aussi aujourd'hui, le chef d'entreprise.
Bonjour à tous. Cette salle inaugurée par Napoléon III et l'impératrice Eugénie, on nous a volé le diadème, mais il nous reste le palais.
Bon. Et dans la capitale des Gaules, on a amené un anarchiste, Bruno Poncet, qui est là avec nous, le cheminot.
Bonjour à toutes et à tous. Et je dirais, merci aux Lyonnais d'être là. Et vous mériteriez d'avoir un vrai club de foot. C'est dommage pour vous de ne pas en avoir. Je suis vraiment désolé pour vous.
Alors, de quoi va-t-il être question dans les GG, dans les grandes gueules? Bien sûr, des élections municipales ici à Lyon, puisque BFM Lyon et BFM TV retransmettent ce soir le débat à 21h. Donc il sera question de celui qui est le favori, Jean-Michel Aulas. Est-ce que les dés sont déjà jetés dans cette élection? Est-ce qu'un chef d'entreprise, finalement, aujourd'hui, là, maintenant que les Français se détournent un peu de la politique, est-ce qu'un chef d'entreprise, est-ce qu'il peut arriver de mieux à une ville? Alors à Lyon ou à d'autres, vous viendrez en discuter avec nous, bien sûr, au 32-16 dans les GG, dans les grandes gueules. Les Lyonnais auront la parole en fin d'émission. Là, je me tourne vers vous, le public. C'est vous qui pourrez prendre le micro et interpeller nos GG. Mais il est question aussi aujourd'hui, bien sûr, des questions d'actualité, en particulier de ce qui s'est passé à Lyon, la mort du jeune Quentin et du soutien indéfectible de Jean-Luc Mélenchon à la jeune garde. Il l'a dit hier sur YouTube, sur sa chaîne YouTube, puisqu'il ne veut plus parler aux médias traditionnels, Jean-Luc Mélenchon. Et quand est évoquée la jeune garde, vous allez voir, c'est clair, net et précis.
Nous ne sommes pas concernés par cette mort. Mais nous ne renierons pas nos amis et nos camarades de la jeune garde. N'essayez même pas. Nous ne chasserons pas de nos rangs le camarade Raphaël Arnaud. Parce que vous vous contentez de l'exiger de nous.
Voilà, c'est clair. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, reste un soutien de la jeune garde et de celui qui a été son fondateur, Raphaël Arnaud.
Oui, il persiste et signe. Alors, c'est intéressant parce que hier, il a organisé une conférence de presse, donc, pour répondre à cette tempête médiatique et politique et répondre aux critiques. C'est une conférence de presse qui se voulait différente avec les nouveaux médias. Donc, il a exclu d'ailleurs une bonne partie des médias traditionnels qui n'avaient pas le droit d'être là. Ça donne peut-être une idée à voir ce qu'il ferait s'il était président de la République. C'est-à-dire qu'il y a quand même une bonne partie des journalistes qui ne peuvent pas venir faire leur travail. C'est assez inquiétant. Et puis, il a effectivement confirmé son soutien à la jeune garde, à Raphaël Arnaud. Alors, il y va même fort, parce qu'à un moment donné, sur la jeune garde, il dit que grâce à elle, nous avons appris à gérer notre sang-froid pour assurer la tranquillité de nos réunions. Alors, effectivement, on a vu le sang-froid à la jeune garde, on a vu ce que ça donnait. Donc, c'est un soutien indéfectible. Alors, pourquoi fait-il ça? Est-ce qu'il n'est pas en train de perdre l'élection présidentielle, parce que c'est son grand dessein, c'est se présenter une nouvelle fois à l'élection présidentielle, ou au contraire, il est en train de resserrer les liens avec son socle initial, c'est-à-dire que ses troupes le suivent, continuent à le suivre. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce qu'il est vraiment en train de se perdre?
Bruno Poncet.
Ça s'appelle la loyauté, hein. En fait, il reste loyal avec les gens qui l'ont aidé et qui l'aideront encore. Après, au moins, il n'est pas hypocrite. C'est pas comme d'autres partis qui se cachent en disant qu'ils ont plus de contact avec leurs extrêmes, alors qu'en fait ils continuent à travailler avec un patron d'imprimerie qui est quand même un des anciens patrons du GUD, qui continue à avoir un, enfin là ils viennent de le déconnecter, mais un ancien maire, le maire de Fréjus, qui était quand même proche du GUD, bah eux au moins ils ont eu un peu cette hypocrisie de dire bah non mais nous on les connaît pas, puis après il les débranche à quelques mois d'une grande élection. Lui Mélenchon, moi il y va au cash. Je pense qu'il est dans une stratégie à l'heure actuelle où il se dit bah, de toute façon faut assumer ce qu'on est, et lui va aller jusqu'au bout. Après, il rend comme ça les autres personnes de gauche, il les rend beaucoup plus mous et tolérants. Donc en fait, pour l'instant, il est en train de faire le rôle un peu de l'épouvantail pour tout le monde, je pense.
Barbara.
Je crois que Jean-Luc Mélenchon, il a une stratégie maintenant à la Dieudonné. C'est-à-dire que il y a eu des dérapages multiples et variés. On est quand même là depuis 3 ans à peu près sur des multiplications de dérapages. Ça avait commencé avec le « je suis la République », etc. Mais bon, c'était son côté « tribun, hein. La République c'est moi, ne me touchez pas, ne me touchez pas ». Bon, là il y avait encore un côté tribun qui pouvait encore passer pour quelque chose qui relèverait d'un peu de l'antisystème. Mais je pense que depuis 3 ans, il a montré également par les choix même des députés aussi bien européens que nationaux la voie qui était la sienne. Et là, je pense que au pied du mur, devant la réalité de non pas seulement la radicalité, parce que moi la radicalité en politique c'est pas ce qui m'effraie. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui soient sur des positions qui soient pas seulement les positions de ces fameux partis de gouvernement qui nous ont quand même conduits dans l'échec patent dans lequel on est aujourd'hui. Il faut aussi qu'il y ait des paroles de radicalité, peut-être pour pousser un peu justement tous ces partis de gouvernement à sortir un peu de leur train-train. Néanmoins là il est plus dans un discours de radicalité. Il est dans un discours d'appel à la violence, reniement même d'un certain nombre de leviers démocratiques. Je suis désolée, mais quand on fait une conférence de presse dans un État démocratique, on invite tous les médias, on n'invite pas les médias que l'on préfère. Ce qui m'amuse beaucoup d'ailleurs, c'est d'entendre souvent ces gens-là de la LFI se moquer de Trump. Trump invite tous les journalistes à ses conférences de presse.
Il les choisit.
Non, il les choisit pas. Tous les journalistes sont accrédités pour venir écouter et discuter.
Il humilie quand même ceux qui l'aiment pas.
Voilà, exactement.
Oui, mais il les choisit. Il les invite, il leur fait pas. Mais je veux dire, là, on a Mélenchon qui crée sa propre chaîne, ses propres journalistes, et donc je pense qu'il a une stratégie, qui est une stratégie qui sera très efficace auprès d'une partie de son électorat, qui peut même séduire un nouvel électorat. Mais il y a un nouvel électorat qui est très séduit par ce genre de discours hyper anti-système. Et dans cette stratégie jusqu'au boutiste, comme l'a dit Bruno, ça donne une impression de loyauté, ça donne surtout l'impression de quelqu'un qui est dans une espèce de politique de suicide politique. Mais il a raison, ça peut payer, ça l'emmènera pas à la tête de l'État, mais ça l'amènera à la tête de la rue, ça c'est sûr, et c'est ça qui devrait être très inquiétant pour les Français, c'est l'insurrection que prépare Jean-Luc Mélenchon. Et j'espère qu'en face de lui, il aura la force publique pour s'y opposer.
Nous sommes le bruit, la fureur, hein. Souviens-toi de ce qu'il avait dit. Emmanuel de Villiers.
Alors, moi, en toute liberté, dans la sensibilité qui est la mienne, c'est plutôt une bonne nouvelle, car les Français ne veulent pas d'un deuxième tour de l'élection présidentielle Mélenchon, le RN, donc vraisemblablement M. Bardella. Ils veulent un choix plus divers que de voter les uns et les autres pour ce qui n'est pas repoussoir. C'est quand même très grave d'élire un président par défaut. On l'a déjà fait un peu en 2017 avec le président Macron qui s'est retrouvé au deuxième tour miraculeusement suite aux affaires Fillon et autres. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Jean-Luc Mélenchon a commis une grave erreur, on n'en parle pas du tout, c'est de ne pas se représenter aux législatives lors de la dissolution.
En 2024
il a laissé la circonscription de Marseille à Manuel Bompard, qui a été élu triomphalement, je crois, avec 67%. Donc il aurait été réélu sans difficulté. Et il s'est retrouvé en deuxième rideau, n'étant pas à l'Assemblée, n'étant pas dans un parti où il est président, puisqu'il n'y a soi-disant pas de patron dans ces organisations néo-communistes. Monsieur Bompard lui-même a le titre
de coordinateur.
Un peu comique, voilà, de coordinateur, oui. Comme dans un camping. Et donc Jean-Luc Mélenchon maintenant s'enferme dans une impasse en maintenant le soutien à ses troupes violentes. Mais en même temps, si il ne maintient pas ce soutien, il se retrouve dans une pampa, dans un no man's land de ses amis dictateurs sud-américains. Donc il n'a pas vraiment de solution.
Oui, mais
encore une fois, le fait qu'il ne soit pas dans une instance telle que président de groupe à l'Assemblée.
Non, mais c'est volontaire.
Déstabilise sa.
C'est le but, c'est parce que c'est le but. Il est le guide suprême aujourd'hui. En fait, son comportement, c'est le comportement du guide suprême. D'ailleurs, pas pour rien qu'ils sont fascinés par tout ce genre de pouvoir hégémonique, tyrannique, voire théocratique, ce qui est quand même assez stupéfiant pour des gens soi-disant laïcs d'extrême gauche.
Je voudrais rebondir sur ce que dit Barbara, parce que c'est assez inquiétant. Tu nous dis finalement, avec cette position jusqu'au boutiste, il renforce son socle de base. Oui, mais alors donc ça veut dire qu'il y a en France des gens qui plébiscitent la violence politique. C'est quoi soutenir Raphaël Arnaud aujourd'hui, la Jeune Garde? C'est soutenir la violence politique. On l'a vu. La Jeune Garde, alors contrairement à ce qu'on nous a raconté, elle existe toujours, elle n'est pas dissoute, puisque ces gens se retrouvent à Lyon, dans la rue, à faire le coup de poing. Raphaël Arnaud ne renie pas non plus ses amis. D'ailleurs, je trouve que ça serait intéressant de savoir si Raphaël Arnaud est au courant de ce que faisait son collaborateur à Lyon. Parce que pendant quelques jours, quand même, il a rien dit, Raphaël Arnaud. Est-ce qu'il n'y a pas une non-dénonciation de crime aussi? Je voudrais poser la question. Ça sera intéressant
que la justice
interroge aussi Raphaël Arnaud pour savoir précisément ce qu'il savait ou pas. On a un Jean-Luc Mélenchon qui défend des types violents qui ont sans doute tué un homme. On verra ce que dit la justice et la femme. Enfin, ils sont poursuivis pour homicide volontaire.
En tout cas, il est mort.
Et vous dites, finalement, son socle, le soutien. C'est très inquiétant. La violence politique est plébiscitée.
J'ajoute un point un peu dans un travelling arrière. Aujourd'hui, les jeunes, ils voient Jean-Luc Mélenchon comme un leader d'extrême gauche.
Les jeunes, moi, je dirais pas tous les jeunes, pardon.
Oui, ceux qui ont un recul politique court. Mais Jean-Luc Mélenchon est en politique depuis 45 ans. Et en fait, c'était pas quelqu'un d'extrême gauche. C'était un membre du Parti Socialiste.
C'était un notable du PS.
Il a été ministre en 1987.
Il a été sénateur. Il a été le plus jeune sénateur.
D'accord, mais à la base, ça reste un trotskiste, lambertiste.
C'est un homme du système.
Lambertiste, un jour,
qui a fait toute sa carrière dans la politique. Il n'a jamais rien fait d'autre, donc maintenant il continue, il navigue à vue.
Quand tu parles de violence politique, moi je suis désolé, mais quand Wauquiez veut mettre le portrait de Quentin, excuse-moi, c'est pas un mec qui a ramassé les champignons.
J'aime bien que on dénigre la victime.
Il ramassait les champignons, il faisait quoi? Est-ce que tu as des faits?
Juste l'activité illégale, il a défilé dans les rues de Paris avec des copains qui avaient le bras comme ça. C'est illégal en France.
Tu as des photos de lui.
Il avait le bras levé. On peut dénigrer les victimes comme reprocher à une fille qui se fait violer d'avoir une
rencontre. Là, on était quand même dans un truc où on a vu après l'humanité a sorti qu'à Discordia a tiré. Faisait venir des copains d'extrême droite pour tabasser des mecs qui étaient en train de les agresser.
Oui, non, mais bien sûr. La stratégie de l'humanité et des
infirmiers,
les victimes en agresseurs.
Excuse-moi, mais Wauquiez, il met quand même le portrait de Quentin. Il a mis le portrait de Quentin.
Oui, c'est la récupération politique.
Oui, donc on est dans la violence politique parce que.
Non, c'est moins violent quand même de mettre un portrait que de tuer quelqu'un sur le trottoir.
On ne parlera pas des drapeaux que M. Doucet a mis sur la mairie.
Non, mais vous faites, en fait, c'est facile aujourd'hui de dire.
C'est facile, c'est les faits.
En fait, la Jeune Garde ne se bat pas contre les gens qui traquent sur le marché. Ils se battent contre des gens d'extrême droite.
C'est l'autodéfense.
Là, aujourd'hui, Macron, j'arrive pas à en placer une avec Barbara. C'est vrai que vous avez raison. En fait, en me coupant la parole, vous aurez toujours raison. Et après, vous aurez raison. Et après, la seule réponse qu'on aura, ça sera la violence dans la rue. Vous avez raison. Continuez à vous comporter comme ça.
Donc, c'est nous aussi qui
vous êtes le terreau fertile pour la violence politique. Moi, je vous le dis.
Donc, en fait, c'est bien parce que c'est bien avec certains, c'est que c'est jamais de leur faute. Il y a un jeune homme qui est mort. Parce que comprenez, ce jeune homme, il avait défilé avec des gens pas recommandables.
Il n'y a pas que ça.
Donc il méritait de mourir.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est la preuve aujourd'hui que Macron veut dissoudre autant des groupes d'extrême droite que d'extrême gauche.
Il fait du en même temps.
Voilà, mais comme d'hab. Mais
en fait, on est là-dessus. La Jeune Garde ne s'est pas opposée à des gens qui traquaient
dans la rue. Elle s'est opposée à des gens qui attaquent des librairies, qui attaquent des bars qui sont de pas de leur bord. Donc en fait, la violence.
Mais ça n'existe pas. Oui, mais je suis désolé.
La violence répond à la violence. Quentin est mort parce qu'il avait choisi la violence.
Tu as des preuves que Quentin a agi de façon violente?
Moi, je te répète, il est mort dans la violence parce qu'il avait choisi la violence comme mode d'expression.
Il n'a pas choisi la violence comme mode d'expression.
Ah bon?
Il était membre de groupes dans lequel lui-même n'a jamais commis de violence.
Justement, tu as des preuves de ça, toi? Quand tu fais partie d'un groupe,
il a un casier judiciaire vierge. Il n'a jamais eu aucune plainte.
Il n'a été plus malin que les autres.
Ah, excuse-moi, il est peut-être mort trop tôt avant de pouvoir commettre des actes.
Il est mort.
C'était du délire complet, toi.
C'est comme ça, en fait. La violence répond à la violence.
Je crois que même Saint-Just a arriver à avoir des arguments un peu plus portés que les tiens.
Non, là, tu peux pas dire ça, parce que là, tu
justifies.
Mais il avait... on va tous se faire justice soi-même. Alors, ça y est, c'est Charles Bronson dans nos rues, là.
C'est ce qui est en train de se passer.
En fait, nous sommes à Lyon. Les faits datent de quelques jours. Un peu de respect.
Ah, ben c'est toi qui dis ça, toi qui es en train de nous faire
en
de la
politique depuis des semaines. La stratégie de Jean-Luc Mélenchon,
il faut bien voir qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, il séduit vraiment la jeunesse, mais il séduit pas une jeunesse qui n'est pas éduquée. Il séduit une jeunesse très éduquée. Je parle pas seulement de la jeunesse des universités, genre études d'art ou de sociologie, d'urbanisme, ou je ne sais quoi, mais je parle aussi des grandes écoles. Moi, j'ai des témoignages de grandes écoles parisiennes, notamment École Normale, supérieure, Sciences Po Paris, et même des universités, enfin des grandes écoles très prestigieuses, et je vais vous dire, je ne donnerai même pas les noms de ces grandes écoles parce que je suis en train de regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux de certains des fils WhatsApp d'étudiants. Croyez-moi, ça fait vraiment peur, parce que là on est chez des gens qui ont fait des classes prépa, qui sont demain les élites de demain. Et vous avez des discours qui sont des discours
elles vont,
de haine.
Elles vont se calmer, ces étudiants vieillissants, après.
Ah ben, ils se calmeront.
Ils finiront au modem.
Oui, oui, ils finiront au modem. Mais en attendant qu'ils finissent au modem, le temps s'accélère et on peut aller vers des temps de confrontation.
C'est vrai que la fac de droit d'assin, c'était quand même un repère de nous bisounours, on est d'accord.
Souviens-toi de ce qui s'est passé en mai 68. Les leaders étaient tous des gens assez cortiqués, et des études supérieures, parce que dans ces... Ouais, bah ça c'est
bah
le
voilà,
slogan.
Ça monte.
Mais les leaders du mouvement étaient des types qui étaient des théoriciens,
étaient des bourgeois,
des penseurs. Tu sais pourquoi? Parce que dans ces cas-là, ils pensent toujours révolution. Ils disent c'est nous qui prendrons les manettes et derrière le peuple n'aura plus le droit.
D'ailleurs,
il suffit de regarder. Il y a un truc très intéressant qu'a dit Jean-Luc Mélenchon hier dans sa conférence de presse. Vous avez vu qu'il avait choisi ses médias.
Oui.
Et ensuite, en parlant des autres médias, il a dit si jamais on prend les manettes, par exemple nos confrères de CNews, le Journal du Dimanche, il dit je les vends à la découpe. Vous voyez, donc en fait, pour Jean-Luc Mélenchon, tout ce qui ne pensera pas comme lui, il ne faut pas oublier, comme tu le disais, qu'il vient du Trotsky, tout ce qui ne pensera pas comme lui, il sera vendu à la découpe.
Ça plaît à son électorat.
Et balancé aux Antilles. Donc ce sera une ligne, vous savez, n'oubliez jamais, une ligne, tribunal révolutionnaire, commissaire du peuple.
On va revivre 1793, vous verrez, ça sera la terreur.
C'est la grande gueule que j'ai vendue à la découpe, tu vois. Je vais découper
tout. Mais mon cher Bruno, tu finiras comme Danton, tu finiras pareil.
Et bien ça ne me dérange pas. Moi, je plus court comme ça. C'est raccourci.
C'est un dictateur, Jean-Luc Mélenchon. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il n'a pas de pays.
Tu sais, Bruno, la révolution finit toujours par manger ses enfants.
Hein. Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, avec Barbara, avec Emmanuel et avec Bruno, on va s'intéresser à l'ambassadeur américain qui a fait un bras d'honneur au Quai d'Orsay à la convocation, vous savez, du ministre des Affaires étrangères à propos de la mort de Quentin. Et l'ambassadeur des États-Unis avait mis en avant l'extrême gauche en disant qu'il s'inquiétait de l'avènement de l'extrême gauche. Il avait dit bah, monsieur, vous mêlez pas des affaires françaises, vous venez en parler ici au Quai d'Orsay, rien à foutre. Il est pas venu. Est-ce qu'il a raison ou est-ce que au contraire c'est irrespectueux? C'est au 32-16 qu'on en parlera avec vous en direct du Palais de la Bourse à Lyon.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules en direct du Palais de la Bourse. Ici à Lyon, nous avons posé les micros des GG. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Et n'oubliez pas ce soir le grand rendez-vous, le débat entre candidats, parce que c'est aussi pour ça que nous sommes là pour ces élections municipales. Ce sera en direct sur BFM Lyon et sur BFM TV à partir de 21h pour les élections municipales. On parlera des élections municipales lyonnaises, d'abord avec Emmanuel de Villiers, avec Bruno Poncet et Barbara Lefebvre. On passe en revue un peu l'actualité du moment. Et c'est vrai qu'elle est toujours liée à la mort de Quentin. Et là, c'est l'ambassadeur des États-Unis qui vient de faire un bras d'honneur à la France. Poncet, il est en PLS, hors de question de dire bravo aux États-Unis. Enfin, je ne sais pas, remarque, parce que l'ambassadeur, M. Kushner, son excellence ambassadeur des États-Unis, rien du tout, a ignoré vraiment de manière remarquable la convocation du ministre des Affaires étrangères, monsieur Jean-Noël Barrot.
A priori, ça ne se fait pas. Quand un ambassadeur est convoqué, il doit se rendre à cette convocation, ce que n'a pas fait monsieur Charles Kushner, qui ne s'est pas présenté donc hier soir au Quai d'Orsay. Et donc le chef de la diplomatie française, monsieur Jean-Noël Barrot, a décidé de ne plus accorder d'accès direct au gouvernement à cet ambassadeur après ce manquement. Voilà, c'est la réponse de la France qui dénonce les commentaires en fait de l'administration Trump au sujet de la mort du jeune étudiant nationaliste. Paris n'a pas apprécié la façon dont l'administration Trump a dénoncé la mort de Quentin. Et souvenez-vous, Emmanuel Macron avait été vexé également par les propos de Madame Meloni, la chef du gouvernement italien. Qui s'inquiétait de l'émergence de cette mouvance d'extrême gauche en France, sachant que l'Italie a été frappée en plein cœur dans les années 70 par cette mouvance-là.
Ben, on est non seulement dans le ridicule, mais dans quelque chose de grave, parce que cette convocation n'avait absolument aucune légitimité. On ne convoque pas comme ça l'ambassadeur des États-Unis pour un bout de propos qui est par ailleurs totalement légitime, puisqu'il disait qu'il y a des violences d'extrême gauche en France. De quel droit on lui interdirait de formuler ce constat ? Charles Kushner, on en pense qu'on en veut, c'est une très très grande personnalité. C'est le père d'un des gendres du président Trump. Il est lui-même
ça en fait quelqu'un de compétent.
Oui, bien sûr, forcément. Il est lui-même milliardaire.
T'as oublié ta casquette ?
Il a roulé sa bosse. Il se fait pas convoquer par un nain de jardin comme ça pour un truc complètement inutile.
C'est le nain de jardin, c'est Monsieur Barrot.
Oui, il faut pas oublier que
tu vas être convoqué, Emmanuel.
Il faut pas oublier que Jean-Noël Barrot est surnommé par l'éminent humoriste de notre chaîne, John Christmas Big Dick. Alors, John Christmas Big Dick, ça marche pas en termes de convocation. Et cette escalade, parce qu'ensuite il en rajoute, Monsieur Barrot, on croirait qu'il est autonome, que la République française, comme dit Mélenchon, c'est lui. Là, il prend le droit de dire que les États-Unis maintenant n'ont plus le droit de contacter le gouvernement français. Non mais on est en plein délire, c'est quand même très grave. Que fait le président de la République ? Il devrait dire attendez, Jean-Noël, je vous ai nommé parce que j'avais personne d'autre, vous êtes très très juste. Alors restez à votre place s'il vous plaît.
Bruno.
Bah pour moi Barrot Kushner c'est Bozo qui rencontre Zavatta hein, en fait c'est deux clowns et bah voilà ça faisait un joli cirque s'ils s'étaient rencontrés en fait quel intérêt d'un côté Kushner il a aucune légitimité diplomatique on peut dire ce qu'on veut
il est ambassadeur
toi De Villiers ou Barbara Lefebvre je vais te dire un truc
on sera peut-être ambassadeur un jour ambassadeur des grandes gueules
toi je te vois bien ambassadrice en Algérie par exemple tu vois je crois que ce serait pas mal
moi je crois que ça permettrait de libérer
imaginez Barbara
chercher moi-même avec un commando
mais je vois en fait je vois pas, la convocation est aussi ridicule que son tweet. Quel intérêt? Aujourd'hui, moi, je ne comprends pas ces politiques qui, aujourd'hui, donnent de l'importance à des tweets. Excusez-moi, mais moi, la politique, quand j'étais gamin, c'était pas des tweets, c'était quand même des gens qui faisaient des choses un peu plus intelligentes. Aujourd'hui, Macron, quand il réagit à un truc, c'est sur un tweet. Il y a un attentat, il fait un tweet. Il y a une crise, il fait un tweet. Je ne comprends pas. Alors là, l'autre, il fait un tweet. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout des tweets de Kushner, en fait?
Alors, si Bruno Poncet n'existait pas, il faudrait l'inventer.
Ça s'appelle le poncisme. Voilà, aujourd'hui, la ligne politique.
Et c'est d'un autre niveau que le
tweet. Oui, mais parce qu'il y a une certaine vexation, Barbara. En fait. On ne supporte pas que d'autres pays nous commentent.
Le problème, c'est que Monsieur Macron passe sa vie à donner la leçon, à distribuer les bons points et les mauvais points. Je rappellerai quand même que quand Donald Trump a été réélu, il s'est fendu d'un tweet dans lequel il dit « Félicitations au président Trump » et « Avec vos valeurs et avec les miennes », sous-entendant « On n'a pas les mêmes valeurs ». Donc c'est quand même extraordinaire, excusez-moi, c'est une démocratie.
Je ne savais même pas que vous avez des valeurs, moi, les deux.
Non, mais je veux dire, même quand il félicite un président élu...
Il fait la leçon.
Moi, avec mes valeurs, c'est bien, t'as tes valeurs. Il n'y a qu'à voir où elles nous ont menées. Elles nous ont menées à la ruine, tes valeurs. Donc lui, il est réélu. Peut-être que ça, c'est le rêve de Macron d'être réélu en 2032. Aujourd'hui, M. Kushner a été convoqué déjà une première fois le 25 août 2025. Il avait écrit un courrier au président de la République, un courrier, hein, c'est-à-dire pas un tweet, sur la question de la montée de l'antisémitisme en France. Il s'était fait convoquer. Il se fait reconvoquer parce qu'il parle de la montée de l'extrême gauche et du danger de l'extrême gauche. Alors je suis désolée, mais Monsieur Kushner souligne des problématiques françaises qui ne sont pas les seules. Alors peut-être que le troisième tweet ce sera sur la ruine de l'économie française et comment Monsieur Macron a rajouté 1500 milliards de dettes à la France. Là aussi, il sera convoqué pour dire des vérités. Donc moi, je suis désolée, vraiment, Monsieur Macron a un problème avec la vérité. Quant à Monsieur,
alors faut pas être naïf. Les Américains,
on n'est pas naïf.
Instrumentalisent aussi à leur manière cette affaire pour critiquer la France. Souviens-toi de ce que disait Jill Evans, vice-président de l'Europe.
Mais les Chinois veulent faire de la Chine un grand pays, les Indiens de l'Inde un grand pays, et les États-Unis veulent faire Make America Great Again.
Les Américains nous donnent la
Make France Bad Again, encore plus bad que possible.
Mais ce qui est très grave, c'est que la France, notamment les armées françaises, sur tous les théâtres d'opération dans le monde, ont considérablement besoin du support américain. Donc avec des guignolades de ce type-là, qui est à Paris tranquille, à gueuletonner, n'avoir aucune idée. Point. Et c'est Kushner qui doit prendre le bordereau de convocation, parce qu'il y a tout un tas de guignols sur les chaînes françaises qui diffament sans arrêt le président Trump. Lui, il devrait prendre un bordereau de convocation et les envoyer en justice aussi.
Et deuxième point, il y a une semaine, c'est l'ambassadeur américain en Belgique qui était convoqué aussi, oui. Bill White, d'accord, pour exactement le même genre de chose, qui constatait un certain nombre de problématiques en Belgique. Il se fait convoquer. Donc, excusez-moi, et M. Barrot dit, on n'a pas de leçon à recevoir de l'international réactionnaire. Ah, mais je crois que les États-Unis n'ont pas de leçon à recevoir de l'international de la mollassonnerie belgo-française. Parce que quand on voit l'état de la Belgique et l'état de la France, excusez-moi, je ne sais pas si la Belgique et la France peuvent se permettre de donner des leçons aux États-Unis, pas plus d'ailleurs qu'ils peuvent en donner à Narendra Modi. Monsieur Macron et M. Barrot, convoquent-ils régulièrement l'ambassadeur d'Iran? Je ne crois pas. Demande-t-il à l'ambassadeur d'Iran de ne plus avoir aucun contact avec le gouvernement français? Je ne crois pas. Par contre, taper sur une démocratie, ça c'est facile. Donc voilà, toujours la facilité avec Macron.
Jean-Noël Barrot ne se fait pas respecter. C'est-à-dire que là, c'est un peu humiliant pour lui.
Le problème, c'est qu'il n'est pas respectable.
Bon, pourquoi?
Non, ce n'est même pas ça. Ici, il est respectable parce qu'il est ministre des Affaires étrangères. Mais c'est ça le problème, c'est que la France, un tas de nations s'essuient les pieds sur la France. Alors les États-Unis, moi je trouve, ont une attitude plutôt respectueuse. L'ambassadeur écrit des tweets, etc. Je trouve franchement que les États-Unis s'essuient quand même moins les pieds sur la France que certains autres pays avec qui nous sommes censés avoir des relations et qui ont des otages à nous. Je pense en particulier évidemment à l'Iran et à l'Algérie.
C'est-à-dire qu'il a, c'est un peu sévère. Enfin, avec de telles conneries, on est obligé de dire la vérité. Il a le niveau qui auparavant était le niveau du quatrième mec qui portait la quatrième mallette là, avec la photocopieuse, je sais pas quoi. Il se retrouve ministre des Affaires étrangères, qui est un poste éminent où il faut connaître le monde entier. Combien de pays ce monsieur, avant d'être macroniste, avait-il visité dans le monde? Normalement, il faut connaître toute la géopolitique.
Ouais, enfin, Monsieur Kushner, il a beaucoup visité le monde.
Kushner, sa première interview qu'il a donnée, il a dit que la diplomatie, il y comprenait rien, qu'il ne connaissait pas l'histoire de France et qu'il ne parlait pas français, mais que comme on l'avait mis à Paris, il était très content d'être dans une des plus belles villes du monde et qu'il essaierait de faire son métier le mieux possible.
Non, c'est exactement ça.
C'est exactement ce qu'il a dit.
Oui, mais il a les moyens de l'ambassade américaine.
Exactement.
Je crois qu'il y a
c'est une nomination de
copinage. 700 collaborateurs à l'ambassade américaine.
Oui, je te rappelle que c'est cette même ambassade des États-Unis qui, il y a quelques années, avait mis des coupoles sur le toit pour écouter tout le monde. Souviens-toi des grandes oreilles.
Y compris Bruno Poncet.
Donc, comme les grandes oreilles russes.
Il suffit d'écouter les grandes gueules.
Et les grandes oreilles chinoises.
L'ambassade des États-Unis, juste pour finir, Barbara, avait proposé d'envoyer le numéro 2 au Quai d'Orsay. Et c'est le Quai d'Orsay qui a dit non, on veut pas du numéro 2, on veut pas du numéro 3 et tous les autres, on veut l'ambassadeur. Et du coup, l'ambassadeur a dit non, je viens de pas.
Et moi, en attendant, je regarde la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la diplomatie américaine est dans le monde sur un certain nombre de terrains, a réussi à régler un certain nombre de problèmes, est en train de monter. Je veux dire, aujourd'hui, c'est la diplomatie américaine, Witkoff et d'autres, qui donnent le là. C'est pas que ça me plaise, mais c'est la réalité. Donc, la France, au lieu de toujours déplorer et d'accuser, elle ferait bien, elle, de se reprendre et de redonner un peu de lumière et un peu de grandeur au pays.
Non, mais on peut pas se féliciter que deux pays alliés, la France et les États-Unis, se parlent comme ça.
Mais c'est la France qui agresse les États-Unis.
Non, c'est un peu des deux, moi, je trouve, la balle au centre, quand même.
Non, non,
Kushner se permet de faire une remarque, ça vexe la France.
Monsieur Macron et Monsieur Barrot ne se sont pas permis de faire des remarques sur Minneapolis.
C'est terminé. On devrait calmer les choses. Enfin, vous pouvez pas vous féliciter.
Eh ben non, mais quand
on soit fâché avec les Américains, on a besoin des Américains.
Soyons précis. Soyons précis, c'est d'autant maladroit et scandaleux qu'il y a 10 jours, l'ambassadeur Kushner a fait un post, une communication publique très chaleureuse vis-à-vis du président en mettant les lunettes de soleil et en parlant du fourchure.
Ah, c'est vrai que ça, c'est de la politique.
Très, très cordial. Eh,
le niveau de politique d'Emmanuel de Villiers est quand même extraordinaire. Il a mis des lunettes, ça y est, son copain.
Comment se fait-il
de faire de la politique aujourd'hui? T'as mis des lunettes, c'est vraiment exceptionnel. T'as fait un tweet sur mes lunettes.
Le climat était cordial de la part
de l'ambassadeur. Moi, je veux dire, ce que je vois des Américains, c'est qu'ils sont en train de défourailler sur leur propre population à Minneapolis.
Et
que Kushner, il n'en parle pas.
Et ça, monsieur, l'exécutif français s'est permis de faire des commentaires sur la politique de l'ICE. Non, mais ça, c'est une politique intérieure aux États-Unis. Elle est critiquable. Mais si tu critiques la façon dont la police américaine gère l'immigration, alors l'ambassadeur français, l'ambassadeur américain a bien le droit de critiquer ce qui se passe en France. Donc, un point partout, la balle au centre, et monsieur Barrot, il la boucle.
Non, mais à quel moment convoquer un diplomate, ça va être intéressant pour qui que ce soit? C'est des trucs à l'ancienne, ça. Ça me rappelle, l'autre fois, je regardais la série Carême, où Talleyrand était convoqué à tire-larigot parce qu'il avait dit un truc ou il avait fait un truc. Enfin, en fait, on
s'en fout. Un grand homme, Talleyrand. Si on avait un Talleyrand aujourd'hui, on serait moins minable qu'avec M. Barrot.
Il était beau gosse avec son pied beau, c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Mais je vois pas l'intérêt, en fait, de ces. Déjà, des tweets, tout le monde s'en fout des tweets, et derrière, en plus, de convoquer les gens, mais tout le monde s'en fout. On a d'autres choses à faire, je pense, aujourd'hui. On a quand même un journaliste qui est retenu en Algérie, je voudrais bien qu'un moment donné
qu'on aille voir Olivier qui est au 32-16 qui est dans Lyon. Olivier,
oui, bonjour à tous. Oui, bah, je suis en train d'écouter là, votre super beau discours, mais en fait, oui, globalement, les gens, moi, je serais plutôt du côté de l'ambassadeur, parce que franchement, il a dit que des vérités. Alors, il y a le ministre, M. Barrot, qui nous fait un pipi caca. En gros, c'est ça, hein, voilà, tout simplement, parce que je pense que c'est un peu télécommandé, là, cette histoire. C'est parce que comme on a plus la main mise sur les problèmes nationaux, on essaie de mettre tout ça en avant, et puis voilà, ça permet encore une fois de taper sur Trump, et puis qu'on soit d'accord ou pas d'accord, hein, tout simplement, parce que franchement, globalement, pour être artisan, pour entendre un petit peu tout ce qui se dit autour de moi, les gens, ils s'en foutent complètement que l'ambassadeur il se soit présenté ou pas, hein. Il y a autre chose de plus pressant, hein, surtout en ce moment, surtout dans les jours qu'on vient de passer, il y a certainement d'autres choses à mettre en place, et puis avec un peu plus de radicalité, si je peux me permettre.
En fait, vous aimeriez que on ait un président qui ait de la poigne quoi, dans le pays, si je comprends bien.
J'aimerais surtout être vivement en 2027, quoi. Voilà.
Ça fait 10 ans que j'aime l'être en 2027.
Voilà, ouais, exactement, vous avez entièrement raison, mais la grosse problématique à laquelle on va se confronter, c'est qu'il est en train de museler tout ce qu'il est en train de nommer à Hardy dans tous les sens pour museler le pays, et puis je tire mon chapeau à la prochaine équipe, hein. Quelle qu'elle soit la prochaine équipe, ça va être très 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 dur.
Oui,
voilà. Tout simplement.
Olivier, je vous remercie d'avoir été avec nous, monsieur l'artisan dans le bâtiment du côté de Lyon. Merci d'avoir été dans les GG. Bonne journée. À bientôt. Alors, on a posé la question. L'ambassadeur des États-Unis qui refuse d'aller au Quai d'Orsay, est-ce irrespectueux, oui ou non? On va voir quel est votre sentiment. Vous dites non, ce n'est pas irrespectueux à plus de 60%. Donc, finalement, vous approuvez l'attitude de l'ambassadeur des États-Unis. Allez, dans un instant avant, le on s'en fout pas. Je vous rappelle qu'il y a des vacances à gagner tout au long de la semaine sur RMC et dans les grandes gueules. C'est le jeu Bellambra. Un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels, 45 destinations. C'est le premium tout compris. Vous envoyez vacances par SMS au 732-16. Vacances par SMS au 732-16. Et les vacances, c'est pour vous. C'est un tirage au sort. Rendez-vous à 11h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Content d'être à Lyon, bien évidemment, les GG ici en direct du Palais de la Bourse. Content d'être à Lyon en direct jusqu'à midi avec Emmanuel Devilliers, Bruno Poncé, avec Barbara Lefebvre. Nous allons débattre, discuter, les Lyonnais. N'oubliez pas votre rendez-vous tout à l'heure à midi moins 20. Vous qui êtes venus voir les grandes gueules, c'est vous qui prendrez le micro pour interpeller les GG sur les sujets d'actualité, peut-être sur les élections municipales. On échange tout à l'heure à midi moins 20. En attendant, à 10h moins 20, c'est l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout, on s'en fout pas.
Vous savez que c'est la régionale de l'étape, hein, c'est la lyonnaise. C'est Anaïs Sinessen qui est avec nous.
Bonjour.
C'est notre petite praline.
Non, non, non.
Est-ce que vous voulez la reprendre? Est-ce que vous voulez la reprendre? Parce que nous, si on pouvait un peu s'en débarrasser, ça nous arrange.
Non, 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 on la garde. C'est la meilleure.
Bonjour les GG. Bonjour à Millionnet. MDMA, Ecstasy, ces drogues qui inondent la France, les GG. La consommation de ces drogues de synthèse a bondi ces dernières années, en hausse même de 480% depuis 2010. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Bruno?
Non, la drogue, c'est mal.
Emmanuel.
On s'en fout pas.
Barbara.
On s'en fout pas du tout.
En 2023, par exemple, près de 66 millions de comprimés de MDMA ont été consommés dans le pays, chiffre de l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Bruno, pourquoi tu t'en fous pas?
Parce que c'est une drogue qui est hyper dangereuse, c'est des drogues synthétiques, et c'est une drogue très dangereuse parce que c'est facile à prendre. Moi, j'ai pris des acides dans les années 80 quand c'est sorti. Bah oui, comme la plupart des jeunes.
C'est pour ça qu'il a le cerveau comme
la plupart des jeunes. Non,
non, non,
des
jeunes années 80.
Moi, j'en ai pas pris dans les 80. Chez les jeunes, dans les 80.
Non, je viens de dire les jeunes. Excuse-moi, Olivier. Non, mais c'est un vrai sujet. Et en fait, à l'époque, c'était déjà hyper facile d'achat. C'est acheter une pilule et tu la prenais. Et là, le sujet, c'est que aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut se poser la question pourquoi un tas de jeunes, et pas que des jeunes, prennent de la drogue, en fait. En fait, aujourd'hui, la drogue remplace le médicament, remplace le pinard, remplace tous les dérivatifs pour éviter que tu trouves ta vie dégueulasse. Bah, au lieu d'aller chercher un médicament,
c'est euphorisant.
Bam,
c'est pas
du... Ah oui, mais comme la plupart des drogues sont euphorisantes, en fait. C'est que tu prends
une drogue.
Bah, tu prends des drogues, en fait, parce que t'as envie que ta vie soit plus belle, mais ta vie peut être plus belle en regardant les Lyonnais perdre un match de foot. Enfin, voilà, la vie peut être. Ah, excusez-moi, ça m'a échappé. Non, mais en fait, je trouve qu'aujourd'hui, on devrait quand même plutôt faire des études. Pourquoi aujourd'hui la drogue est si facile d'accès et c'est pourquoi les gens se tournent vers la drogue plutôt que vers d'autres choses, en fait?
Parce que c'est moins cher aussi.
Bah, pas que, c'est pas que moins cher.
En fait, rien de neuf, parce que toi, c'était dans les années 80, l'ecstasy. Oui. Là, c'est la même chose. MDMA, c'est de l'ecstasy.
Non, mais le LSD, c'est les années 70. C'est Timothy Leary, qui est un grand chimiste, un universitaire américain, qui crée ça. Et en fait, on est dans un truc qui est. Enfin, c'est la roue qui tourne.
Alors,
et toujours.
On peut être aussi addict aux grandes gueules.
C'est vrai. Mais là, il y en a quelques-uns.
Ça rend la vie plus belle. Ça rend la vie plus belle, Barbara.
Non, cette problématique des drogues, elle est vraiment fondamentale parce qu'aujourd'hui, on voit bien que l'Europe est vraiment devenue le grand marché de la drogue. Les États-Unis l'ont été depuis, et c'est pas que depuis Trump, hein, mais Obama, Biden, ils ont tous lancé vraiment des opérations pour essayer le plus possible de lutter contre les dégâts monumentaux, notamment aux États-Unis du fentanyl, on le sait. L'Europe, pour l'instant, n'est pas encore très touchée parce que, justement, les narcos sud-américains ont testé un peu le marché. Le fentanyl marche pas très bien pour l'instant, justement à cause de la puissance de toutes les drogues de synthèse qui sont pour l'essentiel produites aux Pays-Bas. La question des drogues, c'est fondamental. Il y a plusieurs étapes. Il y a produire, acheminer, vendre, blanchir. À chacune de ces étapes, il y a une politique spécifique à avoir. Aujourd'hui, la politique que l'on a, à mon sens, pour ce que j'en vois, c'est la petite politique de la petite vente en bas de la tour. C'est pas celle-là. Il faut aussi aller regarder les pays producteurs. Comment se fait-il qu'un pays important de l'Union européenne que sont les Pays-Bas soit aujourd'hui le grand producteur de toutes ces drogues de synthèse, les diffuse dans toute l'Europe? C'est pour ça que je dis, lisez des livres d'histoire.
Quand tu dis les Pays-Bas, c'est pas l'État des Pays-Bas.
Non, pas l'État. Oui, mais justement, quand on lit,
certains spécialistes disent que c'est devenu un.
Voilà, quand on lit des très longues études et des analyses à la fois historiques et économiques de l'économie de la drogue aux Pays-Bas, ils montrent que depuis les années 70, justement, pour essayer de contrer l'infiltration de la drogue aux Pays-Bas, ils ont choisi la voie de la légalisation. Et en réalité, cette légalisation, en parallèle, elle a permis à l'économie légale d'être complètement infiltrée par l'économie de la drogue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a certains hommes politiques néerlandais qui disent on est pratiquement un narco-État.
Oui, donc,
donc aujourd'hui, il faut que l'Union européenne et les pays européens aident les Pays-Bas à se libérer de, parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui nous envoient toute cette MDMA. Donc, encore une fois, il y a un véritable problème avec les lieux de production.
Vous avez vu ce qui se passe au Mexique, hein.
Ouais, bah oui, mais voilà, les États-Unis, ils travaillent avec la police mexicaine pour éradiquer les narcos et on voit les problèmes que ça fait. Pourquoi on n'a pas une coopération des polices européennes avec une police néerlandaise qui, Interpol, dans certains domaines, est peut-être aussi corrompue. Excusez-moi, ouais, hein, c'est prouvé.
Il faudrait à ce moment-là, au port du Havre, au port d'Anvers, et au port de Rotterdam, il faudrait faire ouvrir tous les containers
et
fouiller seulement. Ça prendrait des jours et ça ralentirait aussi le commerce mondial.
Pour aller à l'essentiel, je ferai deux remarques. D'abord, c'est la rentabilité de la drogue.
Ben oui.
Est-ce que vous savez, mesdames, messieurs, que la drogue est l'activité économique la plus rentable qui dépasse tout? On parle souvent des téléphones avec des rentabilités extraordinaires d'une marque célèbre, mais là, la drogue, la rentabilité, le coût de production est de 1. Et le prix, le prix de vente, le bénéfice total est à peu près 80 fois, voire 100 fois le prix initial. Donc il y a un argent qui se crée de toutes pièces. C'est pire que le pétrole, on n'extrait rien. C'est de l'argent qui se fabrique. Et la deuxième chose, au risque d'être sommaire, il faudrait que l'éducation nationale fasse beaucoup plus de prévention. Au lieu de nous emmerder avec le tri des poubelles, il faudrait mettre le paquet là-dessus.
Après, t'as un autre sujet aussi. Hein. Un truc qu'on peut se dire tous, c'est qu'un pays qui se drogue ne se révolte pas. Hein. Donc un pays qui se drogue, il va accepter toutes sortes de politiques.
Et puis un pays qui se regarde un peu moins le nombril, aussi, il se drogue moins.
Les vidéos en intelligence artificielle, est-ce que vous vous faites encore avoir? Elles pullulent partout sur les réseaux. Il est souvent très difficile de distinguer le vrai du faux. Alors parfois c'est absurde et très facilement détectable, mais la plupart du temps on est aussi sur des scènes extrêmement réalistes. Tiens, à ce propos justement, à l'approche de la cérémonie des Césars, 4000 acteurs et actrices, cinéastes aussi, de Franck Dubosc à Karine Viard en passant par Gérard Jugnot, signent une tribune dans Le Parisien. Ils dénoncent le pillage en règle de leur voix et de leur image par l'IA. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
Pardon, je te coupe, mais moi j'en connais un autour de la table qui se fait avoir à chaque fois, c'est Alain Marchal.
Ah bon?
Alain,
il nous envoie tous les jours des vidéos. Quoi, cette girafe qui nage plus vite qu'un requin,
c'est
extraordinaire.
Quoi, la dernière vidéo?
Mais non, Alain, c'est l'IA.
Alain, c'est quoi la dernière vidéo?
Je me suis fait avoir par une vidéo sur une bagarre. J'ai cru qu'elle s'était déroulée dans les rues de Nice. C'était un montage à partir de gens qui marchaient dans la
rue. Entre Christian Estrosi et Eric Ciotti.
Ça, elle existe vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, on sera à Nice lundi prochain. Ouais. Mais on fera un octogone. Et je me suis fait avoir par la bagarre. Je crois que c'était une vraie bagarre tellement c'était bien fait.
Et tu t'es pas fait avoir aussi par une vidéo de l'équipe de foot de Nice qui gagnait un match? Moi, j'ai cru voir ça aussi. Hein.
Bon, les GG, on s'en fout pas, Barbara, Emmanuel, Bruno?
On s'en fout pas.
Barbara.
Ah non, ça ne faut pas du tout.
Bruno.
Ben non, mais en fait, c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui, ça veut dire que la création et la création artistique est en danger. Il y a une vidéo qui sort, là, ce qui a fait monter un peu tout le monde au créneau. On voit Tom Cruise danser avec Brad Pitt et les gens disent, c'est ça l'avenir. En fait, tu pourras faire des films qu'avec des images de synthèse, qu'avec l'IA.
Et avec des morts. Avec des acteurs morts.
Voilà, des acteurs morts.
Ils ne vieilliront plus aussi.
De toute façon, le premier qui avait lancé ça, c'était les concerts d'Elvis ou de Tupac avec un hologramme. Et puis après, Mélenchon qui a repris ça pour faire de la politique. À la limite, si on aurait des politiques en hologramme avec l'IA, ce serait peut-être moins décevant. Mais en fait, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, toute la création artistique, moi j'ai plein de potes qui sont graphistes, qui sont dessinateurs de BD, ils s'inquiètent parce qu'aujourd'hui, l'IA peut te faire un dessin en 10 minutes quand eux ils mettent des mois à en faire.
Moins que ça même. Oui. Emmanuel ?
Il y a des bouleversements économiques comme ça qui sont considérables et qu'on ne voit pas venir et qui sont inendiguables. J'en citerai deux. On se souvient de Kodak et du concurrent Fuji qui étaient les leaders de la photo qu'on appelait la photo argentique, la photo classique. Moi, quand je m'occupais du Puy du Fou dans les années 90, c'était des machines à cash des entreprises mastodontes, incontournables. Elles ont été terrassées en quelques années par le numérique. Et après, c'est irrattrapable. Deuxième exemple.
Kodak a coulé, ouais.
Deuxième exemple dans le monde artistique.
Qui ça revient?
Tout ce qui est CD, tout ce qui est les disques avant, c'était les 33 tours, etc., qu'on achetait. Tout ça, ça a été terrassé par l'accès par Internet. Et maintenant, les artistes ont la partie qui avant n'était qu'une partie additionnelle, c'est-à-dire les concerts qui sont devenus l'essentiel de leur activité. Donc c'est un bouleversement. On n'y peut rien. On n'est qu'au début.
En fait, cette tribune, elle sert à rien, c'est ça?
Oui. Je crois qu'il y a pas mal de gauchistes d'ailleurs qui l'ont signé. Donc...
Barbara,
Gérard Jugnot est peut-être.
En un mot, on est en train de vivre ce que l'humanité a vécu en 1450 avec l'invention de l'imprimerie. Oui. On est en train de vivre une modification fondamentale de nos modes de communication et de nos modes de création. Il va falloir encore une fois s'adapter, c'est le principe d'Homo sapiens, hein, c'est s'adapter. Et ceux qui ne pourront pas s'adapter, eh bien, c'est la sélection naturelle.
Allez, dans un instant, les amis, je vous donne la suite.
Ah non, on n'a pas parlé de punch.
Demain,
vous avez été trop long.
Allez,
singe.
Je te donne 30 secondes.
Oui, c'est très le petit singe, le petit macaque qui est dans un zoo japonais, qui a été rejeté par sa mère, qui n'arrivait pas à l'allaiter, etc., et qui s'est fait rejeter par tout le groupe de macaques. Et en fait, il s'est pris d'amour pour une. Il a décidé que sa figure d'attachement c'était une peluche, et grâce à cette figure d'attachement qui était cette peluche, il a réussi à avoir cette sécurité émotionnelle si nécessaire à un petit bébé. Et de ce fait, il a réussi à recréer des liens avec tout le groupe de singes qui était avec lui. Et maintenant, il arrive à se réinsérer, à être accepté parce qu'il a réussi à se mettre avec cette figure d'attachement
et
cette
peluche.
J'aurais eu beaucoup de choses à dire.
Dans un instant, les élections municipales à Lyon. Est-ce que vous avez l'impression que c'est plié sur l'élection municipale? Est-ce que les dés sont jetés pour Jean-Michel Aulas? On en parlera avec notre confrère Jade Tierling, qui est journaliste et référente à BFM Lyon. On va parler des élections municipales ici, en direct du Palais de l'Amour.
9h midi, les Grandes Gueules.